Ok, on va essayer de voir un peu sur donc les Pirkei Avot. Alors évidemment, je ne vais pas énumérer tous les Pirkei Avot et faire un cours sur tous les Pirkei Avot. On va juste parler de la première Mishnah des Pirkei Avot et de la dernière, c'est-à-dire quelles relations il y a. Et finalement, on est à 2-3 jours de Shavuot. Et donc 2-3 jours de Shavuot, ça implique une préparation et en tout cas une finalisation de la préparation pour le matin Torah, pour la Kabbalat Torah. Ça fait quand même combien de jours qu'on a préparé? Ça fait 46 jours qu'on a préparé. Donc vous imaginez qu'on a fini Pessah, ou plutôt on a commencé le lendemain de Pessah à compter le Homer, et finalement compter le Homer, c'est aussi commencer la semaine d'après à compter les Perakim, les chapitres de Pirkei Avot. Alors pourquoi on fait les Pirkei Avot pendant pendant toute la période entre Pessah et Shavuot? Alors il est clair que Deres Kadma la Torah, le savoir-vivre, le Deres, c'est-à-dire tout le moussard, on va le voir justement, la morale, l'humanisme, tout ce qui est qui permet à l'homme de savoir se comporter, de savoir réagir, de travailler sur lui-même, d'accord? Ça s'appelle Moussa, on va en parler. Donc nous, tout notre travail pour pouvoir arriver au matin Torah, à recevoir la Torah, c'est justement d'abord et avant tout de travailler sur nous-mêmes. Donc c'est ce que les Chachamim nous ont enseigné. Effectivement, il y a des minagim, chez les Sfaradim, on finit les Pirkei Avot, chez Ashkenim en tout cas, chez certains, les Pirkei Avot ils finissent à Rosh Hashanah, donc ils feront un peu jusqu'à Rosh Hashanah. Quoi qu'il en soit, ça commence à préparer ça, et c'est un travail de longue haleine, d'accord, mais c'est un travail qui doit être, c'est pas simplement de lire des Pirkei Avot comme on a l'habitude de faire dans chacune des synagogues, et de dire à chacun, et après on se met à chanter « Mikelogeno, Mikelogeno », ça c'est très joli, mais c'est en fait, lorsque l'on fait le Pirkei Avot, s'impliquer dans les Pirkei Avot. Et sachez que c'est le livre par excellence du savoir-vivre. Plusieurs conférences j'ai fait à droite à gauche, simplement en prenant un Pirkei Avot. Et j'ai tissé sur la toile du cours, tout ce que nous disent aussi on va dire comme ça, les sages de chez les nations sur la notion du positivisme, etc. On retrouve tout ça au niveau des Pirkei Avot. Et c'est extraordinaire. Alors, le Lev Eliyahu, le Rav Eliyahu l'Éthiopien, nous dit comme ça, hein, c'est quoi Moussar? Pourquoi on a besoin? Il nous dit, c'est comme deux personnes, deux voisins, qui ont chacune une maison mitoyenne, l'une à côté de l'autre, les mêmes, avec le même jardin, etc. Et à la différence, c'est que l'un travaille la terre, il se casse les pieds, il travaille, il coupe les herbes, etc., n'est-ce pas? C'est fatigant. Et l'autre, comme on dit, il est tranquille, il n'a pas envie de se fatiguer, il est content, il s'est déjà fatigué pour obtenir la maison. Maintenant, il a son transat, et il est assis, et il sirote, n'est-ce pas, de la limonade, n'est-ce pas pour les Tunisiens, et il regarde son collègue, enfin son voisin à côté, il dit, mais arrête, repose-toi, prends un transat, cool, Raoul, la laisse blaise, etc. Et l'autre, il dit, ça va pas, non, je travaille, qu'est-ce que tu veux? Le temps passe. Celui qui travaille la maison, sa maison est magnifique. Mais celui qui avait le transat, il n'a plus de transat dehors. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus s'asseoir dehors. C'est des fougères, c'est l'herbe, elle a augmenté, et il reste à la maison. Et lorsque vous regardez les deux maisons, vous dites, celle-là c'est une vieille maison, et celle-là c'est une nouvelle maison.
Entretenir.
Tout à fait. Et le Lev Eliyahu, il nous dit comme ça qu'il y a différence. C'est parce que là, il a travaillé sans enlever les mauvaises racines. D'ailleurs, les mauvais vices, les vices qui sont qui malheureusement qui gangrènent chez l'homme, la jalousie, le kavod, toutes ces choses-là qui gangrènent la vie de l'homme, qui fait qu'il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à être en camaraderie avec son prochain, etc., fait que sa vie, elle est monotone, elle est triste. Mais celui qui travaille sans arrêt, alors effectivement, il voit autre chose, une belle maison, un beau jardin. Mais il faut travailler, c'est vrai, il faut travailler tous les jours. On va dire non. Rabbi Israël Salanter, il disait comme ça que, à un moment donné, il dit, moi, j'ai vu la ville, comment ça se passait dans ma ville, c'était une catastrophe. Donc j'ai voulu changer ma ville. Mais après un certain temps, j'ai vu que je n'y arrivais pas, c'est très difficile. Alors j'ai dit, bon, la vie, il ne faut pas exagérer, je vais me contenter au moins de mon quartier. Je vais essayer de travailler sur les gens, qu'ils soient plus longanimes, qu'ils soient plus patients, etc., etc. Après quelques temps, impossible, ils ne veulent pas changer, c'est très difficile. Bon, laisse tomber le quartier, je vais me contenter de ma rue. Quelques temps après, même la rue, de mon immeuble, même l'immeuble. À la fin de sa vie, il a dit, j'ai essayé, mais maintenant j'essaie de moi de me construire, et c'est très difficile. Comme c'est dire, oui, ça. Évidemment, les vertus chez un homme, c'est un travail de longue année, sans arrêt, sans arrêt. Mais il ne peut.
Excusez-moi, pourquoi on dit Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans.
Alors c'est vrai, Rachel, elle a vu en lui cette belle maison. Elle a vu en lui cette capacité de travailler dans le fond, de ne jamais laisser les choses aller comme ça à la légère ou se laisser aller. Et c'est pour ça qu'elle a décidé, malgré tout, de se marier avec lui. Mais elle lui a dit, mais moi je veux un Tamid Racham. Et il est parti, il est allé étudier. Et c'est ce qu'il est devenu, Rabbi Akiva. Après 24 ans, il avait 24 000 élèves. C'est extraordinaire. Mais parce que c'était un travail, il avait cette potentialité, il avait cette volonté. Mais on a tous cette potentialité. La volonté, c'est autre chose. Est-ce qu'on l'a ou pas? Est-ce qu'on a cette volonté encore une fois, de faire sortir de notre fort intérieur cette potentialité? Et c'est ça tout le challenge. Mais tout le monde, à Kalorou, l'a créé avec une potentialité extraordinaire. Le psychisme de l'homme est formidable, extraordinaire. S'il savait toutes les potentialités qu'il a, que Hachem lui a donné, mais il serait pas là en train de se croiser ou jouer à la pétanque, n'est-ce pas? Il serait là en train de travailler, d'étudier. Travailler, c'est-à-dire étudier. Alors, mais je peux pas avoir à boire en même temps. Et donc ça, c'est cette notion-là. Hein. Du travail que l'on doit faire en profondeur pour être capable de recevoir la Torah. La Torah, elle est dangereuse si elle vient dans les mains de quelqu'un qui n'a pas travaillé. C'est comme si vous allez donner à garder avec vous savez, la bombe atomique, le Alenu, avec les clés, les deux clés, le truc, vous allez donner à des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ils vont dire ce bouton rouge, ah, ça doit être marrant, on va voir qu'est-ce que c'est ce machin, il paraît qu'on voit un champignon, c'est quoi le champignon? Ils ne savent même pas ce que c'est. Il risque de faire des catastrophes. Ben, c'est la même chose. La Torah, elle est tellement puissante, tellement forte, puisque ça vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même, et il n'y a rien d'autre au-dessus de ça, qu'on est obligé, et c'est rien ce travail, mais c'est un minimum de travail sur soi pour arriver, justement, au matin de Torah. On ne nous a pas dit d'étudier tous les jours la Torah, etc. Bien entendu, il faut étudier. Mais vous allez dire, avant tout, de travailler sur soi. Les midot, les vertus. Travailler sur les vices, les enlever, les corriger.
Mais tout ça, c'est grâce à la Torah qu'on arrive.
Évidemment, c'est grâce, et justement on va arriver ici, c'est grâce à ce qu'on appelle la Torah orale. Alors, la première Mishnah nous dit comme ça, tu nous as mis dans le chemin, nous dit la chose suivante. Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe, il a reçu la Torah, n'est-ce pas, du Marmar des Sinaï, là on va le recevoir, Bezrat Hashem. Umesara le Yoshua. Il a transmise cette Torah à Yoshua. Yoshua, il a transmise la Skenim, Veskenim la Nevim, les sages, ils l'ont transmis aux prophètes, les prophètes ont transmis Masarua, l'Anche Knesset, aux gens de la Knesset, c'est au Sanhedrin, au tribunal, au grand tribunal, qu'il y avait dans le Beth Amikdash, de là, et Mamro, Shoshadvarim, ils ont dit, etc. Je vais pas dire ce qu'ils ont dit, mais par quoi commencent les Pirkei Avot? Alors, il commence justement par, premièrement, la présentation de de nos Chachamim. C'est pas écrit, il a transmis à son copain, et son copain l'a dit, et à son voisin, etc. Pas n'importe qui. Moshe l'a reçu. Ok.
J'ai compris, c'est le message de la Mishnah. Il faut transmettre la Torah d'abord avant de l'apprendre.
Alors, on va arriver justement. À qui l'a transmis Moshe? Il l'a transmis à Yeshua. Yeshua, c'était qui? C'était l'élève par excellence de Moshe Rabbeinu. C'était celui qui étudiait sans arrêt la Torah du matin jusqu'au soir. Que lorsqu'on a demandé de faire la guerre contre Amalek, c'est à Yeshua qu'on lui a dit. Lui a dit, qu'est-ce que c'est, moi? Mais j'étudie dans les yeshivas. Qu'est-ce que je vais aller faire, que je vais aller faire l'armée maintenant? Alors là, il a dit, Moshe, sous-entendu, il a dit, mais c'est la Torah qui est Hachem Ish Milchama, parce que Hachem, c'est lui le maître de la guerre. Si j'envoie le plus fort, on va croire que c'est parce qu'il a des muscles. Si j'envoie le plus intelligent, on va croire que c'est le plus intelligent, bien que Yoshua était très intelligent. Je vais envoyer celui à qui il étudie toute la journée, pour comprendre qu'en fait, la réussite de quelque chose ne dépend de combien tu t'es investi dans la Torah. Moshe l'a transmis à Yoshua. Yoshua, il l'a transmis à qui? Pas son copain, c'est malin. Il l'a transmis à pas n'importe qui, aux skénim, aux sages, aux anciens. C'était qui? Tous ceux que vous voyez là dans une shiva, les tamidei chachamim, les rabbanim, les grands, etc. Eux, il les a transmis. Et ces sages-là, ils ont transmis pas n'importe qui, ils les ont transmis aux prophètes, c'est-à-dire c'est le niveau le plus haut. Et eux, ils ont transmis à chaque génération le niveau le plus haut. Ils ont transmis à qui? Un Cheikh Lézard de Goula, c'est-à-dire la grande Sanhedrin. Mais grande Sanhedrin, c'était le niveau le plus haut. Là-bas, à l'époque de c'était Mordechai qui présidait, il y avait les prophètes qui étaient dans aussi les derniers prophètes qui étaient dans Sanhedrin Agdola, Daniel, etc. Qu'est-ce qu'on voit ici? Premier Pirkei Avot, il nous dit comme ça que pourquoi la transmission s'est faite de cette sorte-là, c'est pour nous montrer encore une fois que l'exemple même, les exemples même du peuple juif, qui sont eux les dépositaires de la Torah. C'est-à-dire encore une fois, c'est pour nous donner, un exemple grandiose. Qui sont les Bnei Israël? Qui sont les Tamid Chachem? Pour nous donner un exemple. Si moi je vois que tu transmets à n'importe qui la Torah,